Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le refus de soins. Le refus de soins soulève des questions liées à l'autonomie, à la liberté individuelle et à la responsabilité. Ces questions obligent à se demander comment nous nous représentons la relation de soins. Dans cette relation particulière, est-ce que le patient peut exprimer ses craintes ? Est-ce qu'il peut exprimer son refus sans pour autant être culpabilisé ou même être poussé à revenir sur sa décision par les soignants ? Lorsqu'un patient choisit de refuser un soin, c'est souvent l'expression d'un désir de contrôler son corps ou de contrôler ses décisions, mais ce geste soulève aussi des enjeux juridiques et médicaux considérables. Le droit, tout en protégeant la liberté de choisir ou de refuser un soin, encadre cette liberté en fonction de la capacité du patient à comprendre les enjeux de son choix. Mais cette liberté n'est pas absolue. Il y a des situations et des circonstances très particulières dans lesquelles le refus de soins peut ne pas être entendu ou le consentement peut ne pas être recherché. L'expertise médicale évalue la situation en prenant en compte la position du patient, mais cela ne peut pas toujours être le critère central pour la prise de décision. Le soin peut en effet s'inscrire dans des cas particuliers où la place du refus de soins n'est pas une évidence. C'est le cas des urgences, mais également des maladies contagieuses qui présentent un risque pour la société. De même, lorsqu'une décision de justice exige un soin ou lorsque le patient est mineur, le statut de son avis est difficile à prendre en compte. Est-ce que cela signifie que nous sommes encore à l'ère du paternalisme médical où le soignant sait mieux que le patient ? On ne peut pas oublier que le droit a évolué pour donner plus de place au patient, lui permettre d'accéder aux informations le concernant et donner à sa parole une place très importante, voire cruciale. Pour autant, est-ce que le patient peut toujours prendre les décisions les plus justes et les plus bénéfiques le concernant ? On décrit souvent la relation de soins comme une alliance thérapeutique en faisant appel à l'idée de confiance et à l'engagement réciproque. Dans le cas du refus de soins, que devient cette relation ? Peut-elle malgré tout perdurer et permettre que le patient ne rompe pas définitivement avec le monde soignant ? Pour cette deuxième partie, je poursuis la discussion avec mes invités, Sophie Théron.
Je suis professeure de droit public à l'Université Toulouse-Capitole et spécialiste de droit de la santé.
Gilles Bourgade.
Infirmier en pratique avancée au sein du CHU de Toulouse, en secteur d'oncogériatrie. Et je me préoccupe plus particulièrement du suivi et des patients atteints de maladies hématologiques.
Et Sophie Guglielmoni.
Je suis psychologue, j'ai un exercice libéral et aussi un exercice institutionnel auprès des mineurs non accompagnés dans la protection de l'enfance.
Dans le cas des patients mineurs, est-ce que ces patients sont considérés comme étant capables de refuser un soin ?
Alors la question est délicate, le mineur est représenté normalement par ses parents, ce sont ses représentants légaux, voire un tuteur, et ce sont eux qui vont consentir. Mmh. Ceci étant, la loi prévoit, mais là aussi l'interprétation est parfois difficile, que les mineurs doivent être associés à la décision, hein, c'est toujours l'idée de quand même co-décision, ils doivent être associés à la décision, donc ils doivent être informés. Et ils doivent participer à cette prise de décision, nous dit les textes, en fonction de leur degré de maturité. Mmh. Donc ça veut dire que le médecin doit rechercher le consentement de ce mineur, mais c'est quand même, celui qui est exprimé est quand même celui de ses représentants légaux. Mmh. Ce qui signifie que si le mineur accepte par exemple un soin, mais que les parents refusent, ce refus peut être pris en compte. Sauf que là encore, les textes prévoient que si les parents, les représentants légaux refusent un soin, mais que cela peut entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin doit délivrer les soins. C'est prévu dans les textes, ça c'est un premier élément. Et ensuite, il y a un second élément que je ne vais pas trop développer, mais il y a aussi une possibilité qui est prévue par les textes de contourner en quelque sorte l'autorité, enfin la représentation légale lorsque le mineur refuse que ses parents soient avertis.
Ah oui.
Lorsqu'il refuse que ses parents soient avertis et que les décisions médicales qui sont à prendre s'imposent, que l'action de prévention, le dépistage ou autre s'impose pour sauvegarder la santé de cette personne, là il y a tout un processus qui est possible. C'est-à-dire qu'en résumé, hein, le médecin doit essayer de convaincre le mineur que ce serait bien que ses parents soient informés et soient présents.
Oui.
Si le mineur s'obstine, en quelque sorte, continue oui. de refuser, le médecin peut agir sans les parents, mais avec la présence d'une personne majeure que le mineur désignera.
Ah, d'accord. Il doit être en quelque sorte accompagné
par un majeur.
D'accord. Et alors, Sophie Guglielmoni, vous vous occupez principalement d'accompagner des mineurs non accompagnés, justement, c'est-à-dire qui débarquent sur le territoire français sans attache. Et là, la question de leur parole, de leur volonté ou de leur refus d'entrer dans les soins, elle doit être beaucoup plus complexe, puisque...
Alors, effectivement, ils n'ont pas de représentants légaux. Au moment où ils arrivent sur le territoire et ils sont au moment également où ils sont pris en charge par la protection de l'enfance, néanmoins, un juge des tutelles est désigné au moment de cette prise en charge par la protection de l'enfance et le président du conseil départemental devient le tuteur de ces enfants.
D'accord.
Et donc, par délégation, les travailleurs sociaux qui vont... accompagner l'enfant au quotidien. Donc, il y a tout de même un représentant légal sous la figure de la tutelle.
D'accord.
Donc, un grand mineur, parce que la question effectivement se pose davantage pour les enfants qui ont une certaine maturité, parce qu'effectivement, un enfant de 7 ans ou 8 ans, ce qui arrive parfois, hein, on accompagne des enfants très très jeunes, peu, mais il y en a. On va moins prendre en considération un refus de soins qu'on va plus considérer à l'aune d'une appréhension, finalement, qu'on va essayer de calmer, d'apaiser.
Mmh, d'accord.
En revanche, un enfant de 16 ans qui refuse un soin, et cela arrive, hein, je pense pour le coup à un problème physique hein, qui était survenu brutalement, un jeune accompagné âgé de 16 ans, qui, au cours d'une activité sportive, a fait un malaise. On lui a découvert une grave malformation médicale cardiaque.
D'accord.
Et très rapidement, hein, la proposition lui a été faite d'être opéré. Et dans un premier temps, il a refusé. Je pense que ce jeune ne se sentait pas malade. C'est-à-dire que quelques heures avant d'avoir ce malaise, il n'était pas malade. Et là, tout d'un coup, il faut... accepter l'idée d'être malade, comprendre là où les affects émergent et viennent troubler cette capacité à comprendre qu'est-ce que cette pathologie, et ensuite se projeter dans un soin avec un dispositif médical qui va venir entraver le quotidien, le modifier, et donc tout ça finalement prend du temps. Donc légalement, effectivement, les tuteurs auraient pu dire « Bien, tu n'es pas d'accord, mais nous savons que ce soin est nécessaire pour ta survie, donc nous allons te l'imposer. » Or, l'équipe soignante a préconisé finalement de laisser un petit peu de temps à ce jeune pour prendre sa décision. L'opération était indispensable à sa survie. Donc, c'était vraiment une décision majeure. Néanmoins, le fait d'adhérer à l'opération et au dispositif qui va suivre va énormément compter dans la réussite de la mise en place des soins. Donc, il était primordial pour les soignants d'obtenir l'adhésion du jeune. Donc, malgré toute la frustration que ça implique et la difficulté de ne pas imposer d'emblée cette prise de décision, nous avons dû patienter quelques jours pour que le jeune effectivement puisse conscientiser déjà le fait d'être malade et ensuite pouvoir se projeter. Tout ça, c'est la question du temps. Et le temps, c'est très relatif. Il y a le temps médical qui va imposer un soin immédiat parce que la santé est mise en danger. Il y a le temps institutionnel, hein, le temps qu'on passe à l'hôpital, le temps de prendre une décision, c'est un temps qui coûte aussi,
hein,
sans vouloir être prosaïque, c'est une réalité. Et il y a le temps plus subjectif du patient qui doit prendre sa décision. Et pour cela, il a besoin de toutes ces petites étapes, accepter, conscientiser, se projeter dans l'avenir, alors qu'on est un petit peu en état de choc, vous l'avez dit tout à l'heure, et que cet état de choc va mettre à l'arrêt un petit peu cette capacité à se projeter dans l'avenir. Donc ça prend effectivement du temps.
Prend du temps, oui.
Si je peux me permettre, ce que vous dites est absolument, me semble absolument essentiel. Ça fait parfaitement le lien avec ce que Gilles disait sur le lien entre l'obligation d'information et la recherche d'un consentement qui soit libre et éclairé. Et la recherche, l'obtention de ce consentement libre et éclairé et la recherche de l'alliance thérapeutique, puisque finalement c'est ça dont vous parlez, est indissociablement liée à la qualité de l'information qui a été préalablement délivrée. Et il y a un point sur lequel vous avez insisté, c'est le fait de réitérer éventuellement cette information. Et c'est en lien tout à fait avec le temps que vous laissez évidemment aux patients. Et ça, c'est fondamental. Et ça peut permettre d'éviter des refus de soins, justement.
Oui, donc vous décrivez toutes les deux un accompagnement dans un processus qui mène finalement à une meilleure compréhension de l'état de santé et puis du traitement qui est proposé par les professionnels, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait de comprendre intellectuellement et le fait de s'approprier ce processus. Il y a une dimension affective qui est quand même assez importante.
Je pense aussi que sous la précipitation, le nombre croissant de patients, la pénurie médicale et parfois paramédicale, ce temps n'est pas toujours donné. Et on se doit, nous, en tant que soignants, de bien repérer l'urgence de l'acte. Est-ce que je dois impérativement avoir l'adhésion dans l'heure ou est-ce que j'ai droit à 3 jours? Et là, ça change vraiment. Et cette pression qu'on met sur les gens, et n'est-elle pas celle que nous, soignants, on prend et qu'on répercute sur le patient qui est un peu, lui, au bout de la chaîne alimentaire, quoi, en réalité. Donc, voilà.
Oui, au bout de ce processus, de tout ce processus de réflexion qui est aussi une évolution de la maîtrise technique, des savoir-faire. En fait, le patient, on lui propose quelque chose, mais ce que vous disiez, Sophie, c'est ça, c'est à quel moment est-ce qu'il arrive à être en mesure de s'approprier ce qu'on lui propose, finalement. Et je voudrais revenir sur votre travail dans le domaine de la gérontologie, Gilles. Dans ce domaine, comment peut se présenter le refus de soins? Tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas si clair que ça, c'est-à-dire que, au contraire du jeune évoqué par Sophie, vous n'avez pas des personnes qui vont d'emblée vous dire moi, je ne veux pas subir tel traitement. C'est ça.
Ça peut être très immédiat.
Ah oui, ça arrive quand même.
Si on n'arrive pas à identifier clairement le motif de ce refus, est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est du devenir? Est-ce que c'est une qualité de vie? On ne peut pas traiter ce refus, on ne peut pas discuter avec le patient si on n'identifie pas ce refus. Et il faut être très ouvert parce qu'il y a mes représentations à moi, ce que moi je pense qu'on devrait faire. Je suis le soignant, j'ai été formé à soigner et à accomplir ces soins. Est-ce que j'ai assez bien compris dans mon parcours ce que c'est le soin. Oui. C'est le soin, est-ce qu'il est toujours un acte en réalité?
Oui.
Je ne sais pas.
peut-être
que non, peut-être que, enfin, du moins pas un acte là où je l'entends, moi, en tant que quelque chose de technique. Et ça passe aussi beaucoup par un vocabulaire. Est-ce que le patient n'a pas toujours mon vocabulaire? A-t-il entendu ce que je suis en train de lui dire? Je peux employer des mots qui font peur. Et si on arrive à vulgariser, à apaiser un peu, et à se taire parfois, oui mais non, voilà. La pression du patient, ne doit pas être celle qui appuie sur le patient, quoi.
Dans le cas où vous rencontrez des personnes de cultures tout à fait différentes, est-ce que vous avez recours à des procédés de médiation culturelle, justement? C'est-à-dire, par exemple, des traducteurs, ça j'imagine, mais est-ce que vous êtes formé aussi à cet aspect Et là, ma question s'adresse aussi à Sophie, qui rencontre beaucoup des personnes qui viennent justement d'autres cultures. Enfin, est-ce que vous avez des recours dans ce cas-là? Parce que j'imagine que ça peut faire partie des raisons d'un refus.
Alors oui, effectivement, la dimension culturelle peut énormément compter. C'est vrai que dans certaines cultures, on ne pratique pas nécessairement la psychologie, par exemple. Mmh. Ni même les soins allopathiques ne sont pas aussi répandus. Mmh. La médecine allopathique n'est pas forcément majoritaire.
Oui, hein. D'accord.
Donc, effectivement, toucher le corps, parfois se déshabiller pour accéder à un soin physique, recevoir des piqûres, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment effrayer, mettre en difficulté. Le fait d'injecter quelque chose qui vient de l'extérieur, nous, on y est habitués culturellement depuis très très jeune.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'on
oui.
On nous vaccine.
Oui.
Mais pour des personnes qui ne sont pas du tout habituées à ce type de technique, recevoir un produit qui vient de l'extérieur, ça peut être réellement effrayant.
Mmh.
Et de la même manière, l'idée que parler peut soulager les souffrances psychiques, ça aussi c'est une dimension culturelle très forte que nous partageons ici, mais qui n'est pas du tout majoritaire dans certains pays.
Mmh.
Au contraire.
Ouais.
Le silence, l'oubli peuvent être beaucoup plus valorisés.
Mmh. Et alors, est-ce que vous avez, par exemple, à l'hôpital, des possibilités de vous aider dans ces situations particulières ?
On a le recours à des traducteurs, mais encore faut-il que ces personnes qui sont des bénévoles, hein, et soient, que leur timing soit en adéquation avec celui du médecin, celui du soignant. Donc j'avoue que très souvent, c'est un membre de la famille ou un ami.
D'accord.
Et là, on a automatiquement un biais, parce qu'on reprend mes limites à moi, celles de la personne qui traduit,
ouais.
Et celle du patient. Donc, est-ce que je suis vraiment dans le vrai parce que ça en va un peu loin. Je pense qu'il faut accepter des fois, vous parler d'évoquer la qualité de vie. La qualité de vie, bien la peser avec le patient, arriver à comprendre comment il vit, où il vit. J'en veux pour des patients, par exemple, qui ont passé leur vie professionnelle en France et qui repartent à l'étranger pour souvent finir leur jour au sein de leur famille.
Oui.
Ben, il ne faut pas attendre non plus d'avoir tout ce que l'on souhaite, nous, parce que ça, moi, je le veux comme ça, c'est acceptable, c'est protocolisé, c'est normé, sauf que sa vie à l'extérieur, ce n'est pas du tout celle-là.
Mmh.
Et je dois dire que ces patients-là, avec qui je n'échange pas un mot de français, et on passe uniquement par une personne de la famille, eh ben, leur qualité de vie à l'étranger est parfaite. Et je ne sais, mesure pas le poids du psychisme, en tout cas, ils ont une longévité parfois étonnante.
Oui, ce n'est pas forcément nos repères finalement,
du tout.
Nos repères à nous qu'il
du
faudrait
tout.
Appliquer. Ça, c'est vraiment une difficulté quand on est confronté au refus. Et alors, Gilles, dans la gérontologie, dans ce secteur-là, est-ce que ça arrive qu'il y ait une influence des familles sur ces refus ?
Alors oui, il y a une influence des familles qu'on retrouve avec l'allongement de la durée de la vie.
Ah.
Aujourd'hui, il faut savoir que quelqu'un qui arrive à 90 ou 95 ans, il a des enfants qui ont 70, qui sont souvent en bonne forme.
Mmh.
On a changé sur les 20-30 dernières années l'acceptation du départ de l'autre. Donc, on peut avoir des familles qui soient très ambitieuses dans le soin, qui ne veulent pas voir partir les leurs, leurs parents, parce que c'est pas en logique des choses d'accepter peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a un peu un fossé. Ces enfants qui ont 70, 75 ans, la mère qui en a 95, elle décide. Moi, j'aime bien remettre en perspective, c'est votre mère.
Mmh.
Elle a de l'entendement et elle reste mère. Elle s'oppose à votre décision. Parce que quand on les met face à face, on se rend compte un peu des dissonances, comme on disait tout à l'heure.
Ouais.
C'est elle qui reste maître à bord et il faut la remercier.
Mmh.
Là, c'est dans le cas où il n'y a pas de trouble cognitif ou...
Et justement, dans le cas des personnes âgées, il y a cette capacité possible à s'exprimer avec des mots, mais j'imagine que vous êtes aussi attentif à l'attitude, à l'expression du visage, à tous ces signes qui peuvent permettre de supposer comment le patient perçoit le soin. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a mal, par exemple? Et est-ce que ces signes-là peuvent remettre en question le soin et être peut-être considérés comme un refus?
Alors oui, il nous est arrivé de dans les entretiens en présence de la famille et avoir repéré des haussements de cils, un petit souffle, des choses comme ça qui nous disent il n'y a pas d'équation là au niveau familial et tout le monde n'est pas d'accord. Donc ouais. Là, ultérieurement, quand la famille partira, on reviendra voir le patient pour reprendre ça. J'ai noté tout à l'heure, il m'a semblé que quand il y a autre famille, au niveau explication, je vous ai trouvé un peu silencieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé? Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que vous avez bien compris? Donc ça, on le reprend et moi, j'encourage le patient à en reparler avec sa famille une fois que nous, on a tout bien posé. C'est pas à nous à dire, mais votre parent décide différemment de vous. Donc on essaie d'amener le patient à le verbaliser lui. Ça s'appelle une liberté. Hein. Mais on voit quand même des enfants qui s'opposent à ce qu'on emploie en vocabulaire. Hein. Le mot cancer, on n'a pas le droit de le dire.
Pour protéger.
Ça va très loin. Pensant qu'ils vont protéger leurs parents, qui ont souvent bien plus compris de par leur parcours de vie que les enjeux et ce qu'ils attendent de leur vie en réalité. Donc on a des interdits, c'est comme ça, qui peuvent apparaître de la part de famille, oui.
Oui, donc il faut négocier ou il faut privilégier le patient, j'imagine.
La loi dit qu'on doit informer le patient, donc nous on y tient et on a de moins en moins peur, de moins en moins frileux à annoncer et à dire, quel que soit l'âge, quelle que soit la compréhension du patient, il est très important, on est surpris parfois, on prête à des gens des troubles cognitifs, mais... Ça passe. Il y a des choses qui passent. On ne peut pas en faire l'économie. Et puis après, on peut se réfugier derrière la loi. Oui, mais la loi dit. Voilà. Et non, mais c'est aidant. C'est aidant. Hein.
Merci beaucoup, Gilles Bourgade, Sophie Guglielmoni et Sophie Théron. Nous nous retrouverons dans une troisième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.